Ah, ça fait plaisir de revoir tout le monde après les vacances, des belles vacances, super. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, vous savez, quand on se réveille un petit peu tôt le matin comme ça, on est un peu vaseux. Et puis je disais au Seigneur, les gens ils en ont peut-être marre, tu sais, des horreurs qui se passent avec David en ce moment. Puis peut-être ça leur dit rien, là, tous les textes qu'on va voir aujourd'hui, ils ne sont pas très rigolos. Est-ce que c'est quand même loin de la vie quotidienne de notre siècle, etc. Et je commençais à déprimer un peu, là, à me dire, est-ce que ça correspond, Seigneur, à ce que tu veux? Parce que c'est ça qui importe. Est-ce que ça correspond à ce que le Seigneur veut? Et le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. C'est de dire, c'est vrai, dans ces textes, on parle de toutes les astuces d'Absalom, sa trahison, etc., etc. Plutôt décourageant. Mais le Seigneur me dit, mais si tu regardes dans les psaumes, il y a la réaction de David. Ce qu'il a senti et ce qu'il a souffert. Ah oui, c'est vrai que je n'y ai pas du tout pensé. J'étais tellement axée sur la suite des événements, quoi. Et c'est important, ce matin, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, c'est vrai, d'habitude, surtout quand on lit ce genre de texte. Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai pensé à quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, petite, même jusqu'à 17-18 ans, j'avais quelque part l'impression que les gens en responsabilité, alors les profs, il y en a ici, hein, les parents, il y en a aussi ici, on peut à peu près dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, on peut se comporter un petit peu comme on veut, pourvu qu'on soit correct. Que de toute façon, ça ne les touchait pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression. Et quand je voyais les garçons se bagarrer, j'avais des copains, et j'avais l'impression que les gars aussi, on peut leur dire ce qu'on veut, de toute façon, ils sont en béton. Quand je les voyais se bagarrer, je me dis, ils peuvent entendre. Et je vous dis ça parce que c'est un peu ridicule quand je le vis maintenant, mais j'avais cette impression. Franchement, et je ne suis peut-être pas la seule, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont me dire qu'eux aussi. Et je me souviens d'avoir fait une colonie de vacances à 18 ans, et il y avait un des moniteurs avec qui j'avais partagé le jour de congé. Et puis, je lui ai dit tout ce que je pensais sur les garçons. Et bon, je pensais que ce n'était pas grave, hein, c'est un gars, il pouvait encaisser, et puis voilà. Et puis, quand je suis rentrée à la fac, j'ai rencontré André dans les semaines qui suivaient, et puis il a dit, André, oh là là, elle m'a scié à la base. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ah bon, ça lui a fait quelque chose que j'ai dit. Et voilà, voyez comme quoi parfois on peut s'imaginer, et là je m'adresse aux jeunes, puis à ceux qui ont encore des parents peut-être. C'est pas parce que les parents sont en responsabilité sur leurs enfants, et beaucoup moins après évidemment quand ils sont grands, qu'ils sont insensibles. On a l'impression que parce que, surtout quand ils sont petits, ils commandent, ils donnent des ordres, etc., on a l'impression qu'on peut dire ou penser tout ce qu'on veut, ou le manifester dans le comportement, que ça va. Alors pour ceux qui regardent les films de Disney, je pense qu'on voit très clairement que les parents peuvent être extrêmement affectés par le comportement des enfants et pleurer toutes les larmes de leur corps avant de revenir en face d'eux. Et c'est pareil pour les profs. Quand j'ai vu comment la sœur d'André a mal vécu au milieu de sa carrière, l'hostilité des enfants, je réalise à quel point les profs peuvent souffrir. Mais quand on est élève, alors je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais quand on est élève, on se dit, oh non, les profs, ils s'en fichent. Hein. Ah, alors là, je ne sais pas ce que pensent Marie-France et Charles et les enseignants, Hélène, ils sont aussi affectés. Et ils peuvent être découragés. Et les asiles psychiatriques sont remplis de profs, surtout ceux de la MGEN. Voilà, parce que on pense que, mais ils peuvent encaisser. Ils sont profs, ils sont en autorité, ça glisse. Et on a l'impression que tous ces gens-là sont en béton. Et merci Seigneur que ma mère m'a souvent dit... dans l'église, elle me disait, oui, il a l'air très dur comme ça, le pasteur. J'avais un pasteur assez glacial, ceux qui ont vu les vidéos peuvent en témoigner. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions avec lui quand je traduisais les pasteurs et de voir à quel point il pouvait être affecté. Et là, récemment, il y a deux pasteurs qui sont en asile psychiatrique. Trop, c'est trop. Parce qu'il se trouve que derrière cette apparence en granit, il y a un cœur. Il y a un cœur qui souffre. Cœur de parents, cœur de profs. Alors, vous pouvez mettre toutes les responsabilités possibles. Le maire. Je ne sais pas, Florence le connaît bien, le nouveau maire. Je pense qu'il a un cœur derrière. Il a l'air d'être toujours joyeux, rigolo, très convivial. Je pense qu'il a un cœur. Et qu'il souffre aussi par moments de l'hostilité qu'il rencontre, justifiée ou non. Et il faut y penser par rapport à ce texte de David. Il faut y penser. Parce que là, on va voir Absalom, Absalom, Absalom. Oui, mais David, comment il a vécu ça? Et le texte, en fait, j'ai remarqué, ne dit pas grand-chose. Par contre, il faut aller dans les psaumes. Et là, dans les psaumes, il ouvre son cœur devant Dieu. Il ouvre son cœur. C'est trop, c'est trop. Et voilà. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est important pour nous, enfants. Bon, moi, je n'ai plus la chance d'avoir mes parents, mais pour les plus jeunes, ici, c'est important de réaliser que les parents, ils ont un cœur, pas seulement pour faire des bisous, mais pour encaisser quelquefois ce qu'on leur dit, notre comportement, les difficultés, etc. Les profs aussi. Et j'ai pensé à plusieurs textes. Alors avec les psaumes, il faut faire attention, parce que quand David vide son cœur, il va un peu loin. Écrase-les sur le roc, enfin bon, hein, c'est un peu ce qu'on appelle les psaumes d'imprécation. Bon, c'est un contexte, hein. Mais on va retenir ce qui vraiment peut correspondre à notre époque. Ô Dieu, c'est le psaume 55, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas ma supplication, prête attention à moi, réponds-moi. Gère ça et là en soupirant, je m'agite à force d'entendre l'ennemi en face de l'oppression du méchant, car il déverse sur moi le mal, et avec colère il m'accuse. Et on va voir aujourd'hui, on va voir le texte de Chiméi. Donc, vous allez voir en quoi ça se rapporte. Mon cœur tremble au-dedans de moi. David, le guerrier, hein, le protecteur d'Israël. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort tombent sur moi. Crainte et frissons m'envahissent. Un frémissement s'empare de moi. Je dis, ah, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, je trouverais une demeure, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert, je m'échapperais bien vite, je serais plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Et puis, un petit peu plus loin, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, ça je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me déteste qui s'élève contre moi, je pourrais me cacher de lui. C'est un peu ce qu'il a fait, hein, avec Saül. C'est toi, un homme comme moi, mon intime, toi que je connais bien. Ensemble, nous connaissions la douceur des secrets partagés. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alors, bon, après, c'est une imprécation que je passe. Moi, j'invoque Dieu, le Seigneur me sauvera. Bon, voilà, on a une petite image de ce qu'a vécu David dans ce que je vais vous décrire maintenant. Voilà. Donc maintenant, on a un peu les deux points de vue. On va voir comment Absalom a vécu les choses et on sait comment David les a vécues. Alors, c'était le psaume 55. Oui, au départ, j'avais pensé au psaume 35, mais je pense que celui-là est beaucoup plus précis sur ce qu'il ressentait. Et c'était le grand David. Je pense qu'on n'est pas nombreux à pouvoir être son égal aujourd'hui, en tout cas, surtout pas moi. Je n'ai pas le quart de la moitié de son courage, mais il avait un cœur. Ce grand guerrier qui était capable, adolescent, de prendre la tête de Goliath et de la ramener à Saül. Ben oui, il avait un cœur. Et ça, c'est quand même une découverte. Alors, on en était à chapitre 15, versets 1 à 12 de Samuel. Donc, on va revenir maintenant à notre terrible Absalom. Alors, 15, 1 à 12. Alors, juste avant ce texte, Absalom avait réussi. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait la dernière fois, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Absalom, donc, deuxième fils de David, dans l'ordre de succession, très beau, qui présentait bien, comblé d'éloges, dit la Bible. Il n'y avait pas d'homme aussi beau en Israël, donc il avait déjà une prestance. Voilà que son frère Amnon va violer la sœur d'Absalom, c'est une demi-sœur pour Amnon. Et Absalom est très en colère parce que David, il est fâché, mais il dit rien. Il dit rien, il réagit pas. Je pense que s'il avait réagi violemment, on lui aurait reproché. Mais dans la mesure où il a rien dit, c'est pas juste non plus. Donc c'est très compliqué. Et donc, il est en colère, mais il renferme sa colère et il décide d'entrer dans le silence. Il dit à sa sœur, tais-toi. Et puis, il ne dit rien à David. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé si Tamar était allée voir le roi. Je suis sûre qu'elle l'aurait reçu. Il l'aurait reçu parce que il a écouté la femme que Joab lui a envoyée pour raconter des histoires. Il l'a écoutée jusqu'au bout. Mais il a ordonné à sa sœur de se taire. Et puis, lui-même, il s'est tué, il n'a rien dit. Parce que chez Absalom, on découvre que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et pendant 2 ans, il dit rien. Puis il demande au roi d'inviter son frère à la fête quand ils tondent les moutons, là, ils font une grande fête, et il en profite pour faire tuer, pour faire justice lui-même, il prend la justice dans ses mains. Alors on peut le comprendre, hein, surtout si on est une femme, encore plus, il a défendu sa sœur. Oui, mais est-ce que c'était ça le seul motif? Parce que quelque part, c'est maintenant lui le premier dans la succession. Avant, c'était Amnon. Donc Amnon est mort, il est donc premier dans la succession, et ça c'est important. Il va évidemment, après ça, s'enfuir, parce qu'il y a des risques que lui aussi soit puni. Et il s'enfuit pendant 2 ans chez son grand-père, qui est à Guéchour, donc assez loin. Et il garde un lien privilégié avec le chef de guerre de David. Chef de guerre de David, c'est Joab, neveu de David. C'est un homme, un guerrier épouvantable. David en avait un petit peu peur parfois. Il avait énormément d'autorité et il garde ce lien avec Joab, qui se trouve être son cousin d'ailleurs. Et pendant 2 ans, il fait comprendre à Joab que ce serait bien qu'il puisse revenir à Jérusalem. Bah, je pense que c'était clair qu'il pensait que c'était sa place en tant que prince, prince héritier. On sait ce que c'est hein, en ce moment avec l'Angleterre. Et finalement, Joab a fait ce stratagème, ceux qui étaient là s'en souviennent. Il a envoyé une femme qui était une très bonne actrice et qui est allée pleurer misère auprès du roi. « Ah, mon premier fils, il se s'est battu avec le deuxième l'a tué. Et puis maintenant, les gens de ma tribu, ils veulent absolument qu'on fasse justice et qu'on tue le deuxième fils, mais j'ai pas d'autre fils, tout l'héritage de la famille est perdu. Enfin, » et elle pleure tellement misère que le roi lui promet par le Seigneur qu'il ferait tout pour garder la vie sauve à ce fils. En gros, hein, je résume. Et puis après, elle est maligne, elle le regarde, elle fait « Eh bien alors, pourquoi tu ne fais pas ça avec ton fils ? Tu veux faire grâce au mien, mais toi alors, tu le laisses en exil ?» Ah, elle était habile, cette femme. Et elle coince littéralement, elle piège David. Ce que David cède et fait revenir Absalom, mais je pense qu'en conscience, il était partagé. Il savait bien qu'il n'avait pas fait justice la première fois, il sait qu'il a pas fait justice la deuxième fois, c'est son fils, il aime énormément ce fils. Il dit, bon, bah, d'accord, il revient, mais... Non, il ne revient pas au palais, je ne veux pas avoir de relation avec lui, je ne veux pas le voir. Ouais, c'est une drôle de façon de faire, mais peut-être là aussi, il faut penser à ce qu'il avait dans le cœur. En tant que roi, je devais faire justice, je ne l'ai pas fait la première fois. Et là, je suis incapable de le faire, c'est mon fils, je l'aime. Aïe, 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 je ne tranche pas. Mais j'imagine que des deux côtés, c'était très compliqué. Mais au bout d'un moment, Absalom va révéler sa nature. Parfois, je me dis, oh, je suis un peu dure avec Absalom, mais bon, le texte est là. Il va révéler sa nature et il va enquiquiner Joab jusqu'à ce que Joab accepte. Mais la première fois, Joab ne répond pas. La deuxième fois, il relance Joab. Joab ne répond pas. Alors la troisième fois, la nature profonde d'Absalom se révèle. Il met le feu au champ de Joab. Pauvre Joab. Donc il attaque les réserves alimentaires, ce qui à l'époque était grave. Il n'y avait pas de supermarché. Hein. Et donc Joab, là, il se réveille. Il vient le voir, dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Je t'ai appelé une fois, tu n'as pas répondu. Deux fois, tu n'as pas répondu. Donc, je savais que cette fois, tu répondrais. Ah oui, c'était les bons moyens, c'est sûr. Mais ça révèle quand même quelque chose chez Absalom. Finalement, Joab va pleurer misère auprès du roi pour dire, écoute, vas-y, reçois-le, reçois-le. Et là, c'est pareil, David ne pose aucune conduction, et aucune. Et Absalom, il a le langage officiel, il se prosterne devant David. Mais la Bible ne parle pas de demande de pardon, de repentance, de quoi que ce soit. D'ailleurs, il a même dit avant de partir, s'il veut que je meure, ben voilà, qu'il me fasse mettre à mort. Il était sûr de lui. Il était sûr de lui parce que son geste était parlant pour toute la cour, pour tous les gens. Il se prosterne face contre terre. Et le roi, évidemment, c'est son fils, il l'aime, il l'embrasse. Mais il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de demande de pardon. David aurait pu demander pardon de ne pas avoir fait justice pour Tamar. Enfin, quand même, nous les femmes, on va réagir là. Quand même, il aurait dû défendre Tamar. Et puis, il n'a pas non plus fait justice à Absalom. C'est chaud là, c'est vraiment chaud. Et il n'y a pas de dialogue. On garde ce silence, on fait le geste, un geste qui pour tous les gens de la cour et pour tout Israël était une réconciliation. Mais il n'y avait que le geste, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de repentance. Et qu'est-ce qui se passe après? On pourrait dire, bon, si Absalom était vraiment sincère et voulait une réconciliation avec son père, ce geste aurait tout son sens. Malheureusement, chapitre 15, après cela, Absalom se procure un char, des chevaux et 50 gardes du corps qui allaient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte de la ville. Et chaque fois que quelqu'un avait un litige et se rendait auprès du roi pour obtenir un jugement, c'est un acteur extraordinaire, Absalom. Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom disait « Ah, si j'étais juge dans le pays, tout homme qui aurait un litige ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferais justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait, il l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous les gens d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour obtenir un jugement, parce que les cas compliqués revenaient au roi. Ainsi, Absalom volait le cœur des gens d'Israël. Première étape. Pour tout le peuple, l'embrassade paternelle, c'était acquis, la réconciliation était acquise. Et malheureusement, David n'a pas insisté pour que la réconciliation se fasse de façon appropriée. Alors Absalom est maintenant libre de développer toute sa stratégie. Maintenant que tous savent que le roi l'a reçu avec bonté, il était libre de déployer ses talents politiques, et Dieu sait qu'il en avait, auprès du peuple d'Israël. Alors on aurait pu croire, moi j'aurais espéré, que cette réconciliation allait aider Absalom à comprendre la douleur de David, qui avait quand même perdu son fils aîné. Il avait assassiné le fils aîné. La douleur de David aussi par rapport à Tamar. J'imagine que ça lui a fait quelque chose. Et puis, à l'assassinat en lui-même. Il y avait besoin d'un échange quand même. Absalom aurait pu devenir un fils dévoué, reconnaissant pour la clémence du roi, parce qu'il a été quand même extrêmement clément. Et c'est à remarquer... Philippe a souvent insisté, quand on parlait de la grâce, insisté sur la grâce. La grâce. David comprenait la grâce. Il n'était pas sur la loi. T'as fait ça, donc tu mérites la mort. T'as fait ça, donc tu mérites ceci. T'as fait ça, tu mérites... Non, on sent cette grâce qui affleure souvent. Hein, je suis d'accord avec Philippe qui a mis le doigt là-dessus. À ce propos, d'ailleurs, je voulais remercier tous les gens qui ont participé dans le contexte de l'histoire de David, à donner leur éclairage. J'espère que Dieu voulant, on pourra recommencer ça si Dieu permet qu'on attaque un autre personnage. C'était super. Il y a ceux que j'ai pas pu écouter ici, je les ai écoutés sur Internet et j'ai même pris des notes. C'était merci beaucoup à tous d'avoir eu le courage et le temps de préparer tout ça. C'était super. Donc la grâce, oui, c'est vrai, c'était une dimension importante chez David. Absalom maintenant prend les choses en main. C'était bien, hein, il avait recueilli sa sœur, ce qui à l'époque était remarquable. Il invite ses frères pour une fête, il fait tuer Amnon, et puis il utilise Joab. Il peut visiblement tout se permettre. Mais il a tous les atouts en main. Il est prince, il est d'une grande beauté, il sait prendre les gens, il est bien vu de tous, la Bible dit, comblé d'éloges, jeune, vaillant, à côté de ce vieux roi qui n'est plus très malin à la guerre, j'imagine. Il a toutes les choses à son actif pour avoir l'admiration du peuple. Il s'est montré extrêmement fort face à Joab. Ben, il fallait le faire, hein, parce que Joab, David disait, ces gens sont trop durs pour moi. Ça, c'est ce que disait David. Il est rentré en grâce, successeur possible de David. Et quand même, qui ne veut pas d'un beau roi, jeune et comblé d'éloges comme Absalom? Enfin, il avait tout pour lui. Hein. La pauvre Angleterre se retrouve avec un roi de notre âge. C'est chaud quand même, les pauvres. Sur cette base, il va développer toute une stratégie. D'abord, il va se faire voir partout avec un char, des chevaux et 50 gardes du corps. Ça, c'était une façon de faire qui était aussi chez les Égyptiens et qui signalait qu'on était royal. Bon. OK, c'est le message est clair pour le peuple. Et d'ailleurs, au passage, hein, Samuel avait déjà prévenu, quand il disait « Vous voulez un roi, ben, je vais vous lire ses droits. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars et à ses attelages. Ils iront devant son char comme gardes du corps. » C'est exactement ce que Samuel les avait prévenus. Hein. Alors, je crois qu'il se sentirait très à l'aise en France au moment des élections. Il choisit le bon endroit pour intervenir. Alors, tous nos hommes politiques pourraient prendre des leçons là. Ça marche. Il se montre disponible de bon matin pour les écouter. Un bain de foule. Et puis, un par un, bien avant qu'il se rende avec David. Et il critique son administration judiciaire. Ah, il critique pas son papa, David, non. Mais son administration judiciaire. Oh, ces gens, ils savent pas faire. Alors, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. La Bible ne dit pas si c'est vrai ou pas. Donc, on ne sait pas. Mais il va pas attaquer David, parce que bon, c'est encore un peu chaud. Ça sera pour plus tard. Il commence par son administration judiciaire. Ouais, bon, moi, je peux résoudre tes problèmes. Alors là-bas, ils vont pas t'écouter. Hein. Et pour être sûr d'être bien compris, il affirme toujours « ta cause est bonne ». Est-ce vrai? Et comme personne ne t'écoutera, tu viens vers moi. Si j'étais juge, autrement dit, si j'étais roi, parce que là, il s'agissait des juges suprêmes. Hein. Tout homme qui aurait un litige ou un droit à défendre, je lui ferai justice. Ouais, c'est ce que disent les hommes politiques, hein, avant d'être élus. Après, c'est différent. Il dit aux plaignants ce qu'ils veulent entendre. Et quel humain en difficulté, moi je me suis mis à la place de ces gens, serait insensible à tant de prévenance, d'écoute et d'attention. Il dira non, il exagère, il le fera pas. Non, ils étaient subjugués par tant de gentillesse et de prévenance. Je doute qu'il l'ait mis en pratique, mais bon. À cette époque, comme aujourd'hui, les causes de litige étaient nombreuses. Alors c'était quoi? Les héritages, les bornages des champs, les animaux qui allaient paître dans le champ du voisin, des problèmes entre des terres qui étaient disputées entre différentes tribus, différentes familles. Et les plus compliqués atterrissaient naturellement chez le roi. Mais bon, chez le roi, personne n'écoute. Ça marche bien. Et je trouve que ce texte est formidablement moderne. Regardez le monde politique, syndical, les entreprises, le monde sportif, même les mairies. L'homme est le même dans tous les milieux. Alors tout le monde n'est pas aussi terrible qu'Absalom, mais les méthodes d'Absalom sont toujours là. Parce que c'est des méthodes éternelles. C'est l'homme naturel. Personne n'est à l'abri de ce genre de choses, d'ailleurs. C'est l'homme naturel. C'est l'homme naturel. Quand Paul décrit la chair, ben c'est ça. Une façon de faire qui ne glorifie pas le Seigneur, mais qui nous est naturelle. C'est pour ça que le TQP disait « marcher par l'esprit ». Et ce n'est pas facile de marcher par l'esprit. Ce n'est pas facile. Parce que notre homme naturel, il respecte, hein. Donc il va même abolir la distance entre le prince, le roi et le peuple. Et il fait mine de refuser les courbettes, il embrasse les gens. Vraiment, c'est très politique. Regardez les princes en ce moment qui prennent des bains de foule et serrent les mains, etc. Ça marche, ça attire la sympathie des gens. Je ne sais pas si David prenait le temps de faire ça. David était un vaillant soldat, un chef militaire. Il était surtout protecteur d'Israël, vous savez, il a élargi les frontières, il a chassé les pillards, il a chassé les gens qui venaient faire des incursions régulièrement, et il a fait un travail de protection du pays, Mais je ne suis pas sûre qu'il avait ce charisme comme Absalom. Je pense qu'il devait admirer Absalom. Alors je me suis posé la question, parce que là j'ai pensé un peu à David, est-ce qu'il voyait ce travail de sape? Je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Alors vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Fermait-il les yeux parce que c'était son fils? Ça c'est une possibilité aussi. Est-ce que quelqu'un l'a prévenu? A osé le prévenir? Je ne crois pas parce qu'il est tombé de l'armoire le jour où il s'en est aperçu. Mais bon, vous pouvez réfléchir à ces questions, relire le texte. Et la Bible dit simplement, Absalom volait le cœur des gens d'Israël. Ça marche. Donc, il fait sa propre élévation, il critique l'administration, il fait une campagne de promesses et il utilise son charme et sa flatterie. Et il n'a pas tort quelque part humainement, parce que David a prouvé qu'il n'appliquait pas correctement la loi. Joab a prouvé qu'il se soumettait. Chef militaire comme Joab, j'en reviens pas. Le peuple, qu'il éblouit par sa beauté, sa jeunesse et sa sympathie. Donc il a une base solide. C'est franchement le roi idéal pour les gens. Il a un comportement royal, il est actif, disponible et attentif. Malheureusement, je crois que Absalom ne s'affirme pas par des actions, mais par des paroles. Et j'ai réfléchi, Saül, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est affirmé comme roi? Des promesses, des paroles? Je crois qu'il n'était pas très beau parleur en plus. Saül, le vilain Saül, il a été confirmé comme roi parce qu'il a eu le courage d'affronter des sauvages, une tribu vraiment sauvage, les Ammonites, qui avaient décidé de crever un œil à toute la population avant de les soumettre. Enfin, l'horreur! Il a affronté ces gens. Il est parti de nuit, alors que c'était quand même un agriculteur. Il est parti de nuit, il les a pris en tenaille et il a sauvé la ville de Yabesh. Voilà comment il a affirmé sa royauté. La protection contre les dangers. Et je vous assure qu'à cette époque, je n'aurais pas aimé vivre. L'Ukraine, c'était partout, tout le temps. Donc, oui, même Saül s'est affirmé par la protection du peuple. David, écoutez, vous connaissez l'histoire, Goliath, la victoire sur les Philistins, chasser les pillards. Pas des paroles, mais des actions. Et ça, c'est super. On va lire dans chapitre 15, versets 7 à 12. Alors, au bout de 40 ans, alors 40 ans, il s'agit du règne de David, hein sinon ça ferait vraiment beaucoup. Absalom dit au roi, laisse-moi aller à Hébron, je te prie, pour que je m'acquitte du vœu que j'ai fait au Seigneur. Car moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu. Pendant que j'habitais à Geshur, en Aram, chez son grand-père, j'ai dit, si le Seigneur me ramène à Jérusalem, je servirai le Seigneur. Et le roi lui dit, va en paix. Alors Absalom partit pour Hébron. Alors Hébron, c'était bien choisi. C'est là où David avait été couronné roi sur Juda et après sur les tribus d'Israël. Donc sur l'ensemble du pays. Il était né là-bas. Je pense qu'il avait tous ses copains d'enfance. Enfin, ça n'a pas choqué David. Là encore, je pense que David n'a rien vu venir. Et Absalom envoya des agents dans toutes les tribus d'Israël en leur disant « Quand vous entendrez le son de la trompe, vous direz Absalom est devenu roi à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités. » Ah là, j'ai pitié pour eux quand même. « Allèrent avec Absalom, ils le firent en toute bonne foi, sans se douter de rien. » Il était doué, Absalom, quand même. « Ils le firent en toute bonne foi, sans se douter de rien. » Il a entraîné derrière lui 200 hommes d'Israël dans une conspiration. Et les pauvres se doutaient de rien. Ils pensaient aller à un sacrifice de reconnaissance, quelque chose comme ça. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo Ahitophel, le Guilonite, conseiller de David. Et la conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est chaud, hein? Parce que, vous voyez, on aurait pu soupçonner que ça va, c'est pas méchant ce qu'il fait, il a envie de se montrer, il aime bien les gens. Mais là, une fois que son emprise sur les gens est posée, eh bien, il attaque directement le problème, il se fait proclamer roi. Il avait tout organisé. Malheureusement, ce que je trouve horrible, c'est qu'il prend un prétexte spirituel. Le Seigneur. Alors là, quand on commence à mêler le Seigneur à ce genre de choses, c'est une catastrophe. Le Seigneur a dit. Bon, c'est moche. Si le Seigneur me ramène, je servirai le Seigneur. Voilà, j'ai parlé au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur a dit, c'est moi, j'ai parlé au Seigneur. Et le roi y croit. Il est très organisé, vous voyez, il a des agents. Donc ces gens étaient préparés, visiblement. Hein. On fait sonner la trompe, on va dans toutes les villes et les villages, et on dit, Absalom est devenu roi Hébron. Alors, voilà, c'est lui qui décide d'être roi. Il n'est pas adoubé par qui que ce soit. Mais les gens ne vont pas poser de questions. C'est le fils aîné du roi, le successeur désigné. Ah, bah sans doute que David a décidé. Bon, ça marche. Les 200 hommes, ils ont suivi en toute bonne foi. Et alors là, il fait fort, parce qu'il envoie chercher Ahithophel, le Guilonite. Et ce n'était pas un choix innocent, parce que c'était le conseiller principal de David. Ah, et vous savez ce qu'on disait d'Ahithophel ? C'est que ses paroles étaient presque comme celles de Dieu, qu'il avait autant d'autorité qu'une parole de Dieu. Voilà, c'est le chapitre 16, verset 23. Et il va chercher Ahithophel. C'est très, très, très malin de sa part. D'abord, c'est un coup dur pour David. Cet homme le connaissait parfaitement, connaissait ses défauts, connaissait ses faiblesses, et Dieu sait qu'il en avait, tout comme nous. Et donc, on va lui piquer son conseiller pour montrer à tout le monde que, ben voilà, j'ai le même conseiller que David, donc allez, vous êtes en sécurité. Aïe, aïe, aïe. J'imagine la réaction de David qui explique le psaume que j'ai lu tout à l'heure. Son ami, son frère. Celui avec qui il échangeait les choses les plus secrètes, à qui il demandait conseil. Bon. La conspiration, la conclusion est la conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Maintenant, on voit ce que David pensait dans le psaume. On va lire versets 13 à 18. Quelqu'un vint dire à David, le cœur des hommes d'Israël suit Absalom. Ah ben, il était bien temps de lui dire, hein. Alors David dit à tous les gens de sa cour qui étaient avec lui, et là ça clique, il comprend. Prenons la fuite, sans quoi nous n'échapperons pas à Absalom. Il connaît son fils. Partez vite, sinon il aura vite fait de nous atteindre et d'attirer le malheur sur nous. Et ce que j'aime chez David là, c'est en passant la ville au fil de l'épée. Il veut protéger sa ville. Il sait qu'Absalom avec son armée ne va plus faire de cadeaux. Il ne va plus faire de cadeaux et c'est les gens qui vont trinquer. Donc il préfère s'en aller pour pas que la ville trinque. Les gens du roi lui disent « Quoi que tu décides, roi, nous sommes à ton service. » Le roi sortit, toute sa famille le suivait, il laissa 10 concubines, coutume de l'époque, pour garder le palais. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Et là, surprise, tous ces hommes, kérétites, pélites, passèrent à ses côtés. Et la plus grande surprise, et tous les gathites au nombre de 600 hommes. Les gathites étaient les habitants de Gath, donc des philistins. Et on va se dire « Mais alors, il était servi par des soldats païens ?» Ah, je ne suis pas si sûre que ça, qu'ils étaient païens. Tu regardais ce qu'ils disent. Le roi leur dit à Ittai, le chef donc des Gathites, « Pourquoi viendrais-tu avec nous ? Retourne et reste avec le roi, car tu es un étranger. Tu es déjà un exilé pour ton propre pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous quand je ne sais pas moi-même où je vais. » Là, il est perdu, David. Hein. « Retourne et ramène tes frères avec toi. Fidélité et loyauté. » Ittai répondit au roi, « Par la vie du Seigneur et par ta vie. » Alors c'était une formule, mais une formule qui avait du sens. Il semblerait qu'Ittai ait accepté de suivre le Dieu de David, par la vie du Seigneur. C'était une formule de serment, mais ça veut dire que quelque part il avait adopté le Dieu de David. Et voilà qu'est-ce qu'il lui dit, « Au lieu où tu seras, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi je serai moi ton serviteur. » Et là, David accepte et dit, tu vas et tu passes. Vous voyez, il avait même le souci de ces 600 hommes, avec leur famille, ça devait faire du monde, qu'ils ne se fassent pas tuer. Rentrez chez vous, mettez-vous en sécurité. Donc, sécurité pour la ville, il pense à la sécurité de ceux qui le suivent. Quel cœur extraordinaire. Ah oui, c'était un homme de guerre, mais il avait du cœur. Et il faut remarquer quand même là qu'il avait encore des gens autour de lui. Parce qu'on parle beaucoup d'Absalom et de tous ceux qui se sont laissés entraîner avec lui, mais il y avait encore des gens fidèles. Et vous voyez les mots qui sont là, c'est fidélité et loyauté. Alors aujourd'hui, je pense que ça ne serait pas très bien vu, surtout en France. La fidélité, la loyauté, on appelle ça du lèche-bottisme ou je ne sais quoi, et on favorise plutôt la rébellion. La rébellion modérée, mais il faut qu'il y ait de la rébellion. Hein. Et le rêve des Français, c'est toujours d'avoir un président d'un côté et puis un Premier ministre de l'autre. Alors, c'est la malle mort pour ces deux hommes, mais les Français aiment bien qu'il y ait un contre-pouvoir fort à côté du pouvoir. C'est invivable pour le président. Tous les présidents ont mal vécu ça, bien sûr. On a qui sont tombés malades, etc. C'est extrêmement dur. Mais l'idée d'être fidèle et loyal, c'est mal vu. Moi, je me souviens, quand j'étais en quatrième, j'étais traitée de lèche-botte parce que mes parents m'avaient appris à respecter les profs et puis à travailler parce que, bon, c'est pas papa qui me trouverait un boulot, donc il fallait que je travaille. Et je me suis fait traiter de lèche-botte jusqu'à ce que Dieu intervienne. Ça, c'est une autre histoire. Et fasse quelque chose de très beau dans la classe. Mais c'est dur. Dans la commune, on m'a traité pendant un temps le toutou du maire. Parce qu'en tant que premier adjoint, ma vision était le bien de la commune. Donc quand il faisait les choses bien, j'étais d'accord. Par contre, quand il faisait les choses mal, j'intervenais. Parce que ma référence, c'était pas les goûts des gens, c'était le Seigneur. Et puis le bien de la commune. Et s'il faisait quelque chose de bien qui convenait au Seigneur, je l'encourageais et je le soutenais contre vent et marée. S'il faisait quelque chose de mal, j'allais le voir et je lui disais non, parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Je sais que Florence l'a fait récemment, et c'était très très bien. Elle a eu le courage de dire non, ce n'est pas correct. Et elle a été suivie par tout le monde. Soyez le sel de la terre, et je crois que c'est important. Mais fidélité et loyauté, à cette époque, c'était des qualités. C'était des qualités. Mais bon, ils n'étaient pas français, ils n'avaient pas coupé la tête de leur roi encore. Ils n'en étaient pas loin, mais... voilà, fidélité et loyauté, ce sont des qualités dans la Bible. Voilà, et il a le souci de ses hommes. Et puis vous allez voir que Tsadok, il est là avec l'Arche de l'Alliance. Et vous savez qu'il y avait une sorte de superstition, que si on avait l'Arche de l'Alliance avec nous, Dieu était avec nous. Et l'Arche... Ah, oh, il est extraordinaire la réponse de David. C'est là que je rejoins complètement Philippe. Il avait la grâce de Dieu dans son cœur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera. Il me fera voir ce coffre donc de l'Alliance et son domaine. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, qu'il me fasse ce qui lui plaira. » Ce qui comptait pour David, c'était pas « je veux le coffre avec moi pour être sûr d'avoir la bénédiction. » C'est ramène-le, remets-le en sécurité, c'est pas la peine qu'il y ait des problèmes. Et puis moi, ma relation, c'est avec Dieu. Si Dieu est d'accord avec moi, eh ben, il prendra soin, je pourrai rentrer. Et si Dieu ne prend pas plaisir en moi, ben, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que Dieu pense ? Qu'est-ce que Dieu pense ? Et il était sensible à ça, ben, on va voir. Et là, il se jette à l'eau, pas de coffre de l'Alliance, il renvoie de Tsadok. Par contre, il garde les prêtres, Ahimath et Jonathan, enfin, les prêtres... Fils d'Abiathar, voilà, Abiathar. Mais ils vont lui, on va voir dans l'histoire qu'ils vont lui rendre des services. Et si je trouve grâce aux yeux du Seigneur. Quelque part, David, il est conscient que si Dieu l'avait appelé, installé, c'est Dieu qui décidera du combat, comme tous les autres combats. Même si celui-là était plus douloureux parce que c'était son fils et qu'il aimait son fils. Même s'il ne savait pas le montrer, j'imagine, hein, à cette époque-là, ce n'était pas évident. Hein. Les relations... Père-fils, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui, mais il l'aimait. Ce qui était important, c'était Dieu qui déciderait du combat. Et il était conscient de son appel, parce que Dieu lui avait dit à plusieurs reprises, et là j'aime tellement ces passages, c'est moi qui t'ai pris au pâturage. Et franchement, quand j'étais jeune, je disais, mais Seigneur, c'était une catastrophe. Ce jeune, il était content derrière ses moutons. Il pouvait composer de la musique, il pouvait chanter, il pouvait jouer des instruments. Et puis bon, j'ai vérifié, c'était un petit troupeau, donc je ne devais pas être riche, bon, il y avait quelques moutons. C'était sympa la journée, dans la communion avec Dieu, dans la nature. Moi, je vois ça d'un bon œil. Hein. On a regardé des documentaires récemment avec André sur la vie des bergers. C'est quand même pas mal, bon, c'est des grands troupeaux par contre. Mais c'était quand même lui faire un coup dur que d'aller le chercher dans sa vie tranquille. Et après, il n'a eu que des embêtements. L'opposition de Saül, l'opposition de ses frères d'abord, qui l'ont traité d'arrogant et d'orgueilleux, etc. Ensuite, l'opposition de Saül. Ensuite, l'opposition des... avant Saül, il y avait tout, la guerre avec les Philistins, etc. Heureusement, il a eu l'amitié de Jonathan. Mais après, ça a été un problème avec les Philistins. Et puis après, ça a été Tsiklag, où ses propres gens ont voulu le tuer. Parce que c'était bien de suivre David quand on allait de victoire en victoire contre les pillards du désert. Mais c'était beaucoup moins bien quand il y avait une défaite et qu'ils avaient volé les femmes, les enfants et le bétail. Alors suivre quelqu'un qui a du succès, c'est facile. Suivre quelqu'un qui vit un échec, oh, quelle horreur, on est humain quoi. Hein, on est tous pareils, je veux dire, pas envie de suivre quelqu'un qui vit un échec énorme comme ça. Mais Dieu a dit, je t'ai pris, j'ai retranché tes ennemis devant toi, je t'ai accordé le repos. Je, vous savez, c'est dans 2 Samuel 7. Quand quelque chose correspond à un appel de Dieu dans nos vies, quelles que soient les oppositions, et je pense aux missionnaires. Combien de missionnaires sont partis avec des parents en colère? Je connais même des jeunes pasteurs qui ont été rejetés par leur famille parce que c'était des chrétiens, mais ils ne voulaient pas que leur fils ait vie de pasteur. Bon, je les comprends, mais voilà. Ils ont eu des oppositions terribles, ils ont souffert, ils ont pleuré. Dans ma propre église, hein, j'ai eu des cas comme ça. Les missionnaires, lisez les biographies. Müller, les chercheurs chrétiens, etc. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme opposition? L'opposition n'est pas... Bah, ça fait partie du paquet, quoi, quand Dieu appelle. Et je trouve ça très dommage. Alors là, franchement, je trouve ça dommage. Moi, franchement, je rêverais d'une vie de pétales de roses. Mais bon, avec les roses, il y a les épines. Mais bon. Alors, il ne faut pas oublier que là, on est devant un David extrêmement affaibli. Il est âgé. Alors moi, je trouve qu'il est un peu déprimé. Ça, vous verrez, vous, quand vous relirez le texte, je le trouve un peu déprimé. Il est sous le choc. Et comme l'ennemi aime nous attaquer quand on est au sol, hein, vous savez, quand tout va bien, bon. Mais quand on est, par exemple, malade, ou il y a un souci dans la famille, ou il y a une fuite d'eau dans la maison, et puis il y a d'autres problèmes, problèmes au travail, alors c'est là que l'ennemi vous saute dessus. Et là, je sais que plusieurs d'entre vous pourront en témoigner. Là, il met le paquet. Parce qu'on est déjà au sol, on est déjà fatigué. Ah, c'est trop beau pour être vrai, là. Ah, il saute dessus. Et c'est un peu ce que je ressens pour David. Il est affaibli, il est âgé, il est en fin de carrière, vraiment à la fin, là, parce qu'il dit bien au bout de 40 années, donc c'était vraiment à la fin de son règne. Eh bien, il va y en avoir un autre qui va s'ajouter à la liste. C'est Shimei. Et là, ce texte m'a posé des problèmes pendant des années. À tel point que quand M. Nicole, la professeure d'Ancien Testament, est venue, je suis allée le voir, je lui ai écouté ce texte, je ne saisis pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce texte? Eh bien, on va le lire. Le roi David était arrivé, donc il est en fuite. Il était arrivé jusqu'à Baourim. De là sortit un homme du clan de la maison de Saül. Oh, ça remonte ça. Nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. De quoi je me mêle. Il jeta des pierres sur David et sur tous les gens du roi David, tandis que tout le peuple et les guerriers étaient à la droite et à la gauche de celui-ci. Donc c'était quand même un monde important, hein, si on compte les 600 hommes, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Dehors, dehors, sanguinaire, homme sans morale. Le Seigneur fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place de qui tu es devenu roi. Le Seigneur a confié la royauté à Absalom, ton fils. Ah là, on parle au nom du Seigneur. Tu l'as mérité, ton malheur, car tu es un homme sanguinaire. Alors Abishai, donc qui était le frère de Joab, hein, fils de Tseruya, dit au roi, pourquoi ce chien mort, c'est une drôle d'insulte, hein, ce chien mort, c'était une insulte de l'époque. Ce chien mort te maudit-il, au roi, mon Seigneur? Laisse-moi aller lui couper la tête, je t'en prie. Ils étaient radicaux à cette époque-là. Mais le roi, et là on va rejoindre ce que disait Philippe, la grâce, le roi dit, pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires, fils de Tseruya? S'il maudit, c'est que le Seigneur lui a dit, maudit David. Qui donc peut lui dire, pourquoi agis-tu ainsi, hein, si ça vient de Dieu? David dit à Abishai et à tous ces gens, mon propre fils qui est sorti de moi en veut à ma vie, a plus forte raison ce Benjaminite. Aïe, aïe, aïe. Moi, je trouve qu'il y a un peu de dépression là-dedans, mais bon, je laisse ça à votre appréciation. Il a eu toute une série de chocs. Il est affligé, il est fugitif. Ah oui, je voulais quand même vous lire au verset 30 de chapitre 15. David montait la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte, et il marchait pieds nus. Tous ceux qui étaient avec lui s'étaient aussi couverts la tête. La montagne des oliviers, ça ne vous dit rien? Il y en a un autre qui a monté cette montagne avant de donner sa vie pour nous. Aïe, là on a un petit aperçu de ce que vivait David. C'était pas facile. Hein. Et puis, une fausse nouvelle, on lui dit que, bon déjà apprendre que Ahitophel lui avait tourné le dos, c'était pas drôle. Une fausse nouvelle, c'est on lui dit que Méphibosheth, qu'il avait recueilli à cause de sa promesse à Jonathan, il change de camp. Bon, et là-dessus arrive notre Shimei, plein de malédictions. Alors là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi il ne répond pas? Parce que le Shimei en question, il balance tout un tas de mensonges. Pourquoi il ne bouge pas? Quand même, il a le souci de la vérité. Et je me suis posé des questions pendant des années. Pourquoi est-ce que David le laisse faire? Est-ce qu'il faut toujours, parce qu'après il faut des applications à notre vie, est-ce qu'il faut toujours accepter les accusations mensongères? puis dire, bon, c'est Dieu qui s'en occupera. Est-ce qu'on a le droit de se défendre, honnêtement, bien sûr. Tout ça, ça tournait dans ma tête. Ce texte me gêne, parce que c'était des mensonges. Alors, après, j'ai travaillé ce texte de près. Alors, il y a des choses qui sont fausses, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Sanguinaire, homme sanguinaire, ça veut dire coupable d'un crime. Bon, je me dis, mais il a refusé de tuer Saül, c'est Joab qui a tué Abner, c'est pas lui. Homme sanguinaire. Et je me suis rappelé de ce texte. David est un homme de guerre. Il avait beau être protecteur et libérateur d'Israël, il avait donc fait la guerre. Et rappelez-vous ce texte, et je suis sûre que certains y pensent déjà, je les vois. 1 Chronique 22, 18 et 28, 3. Dieu ne lui confie pas la construction du temple parce qu'il a répandu trop de sang. Enfin, je savais que vous y penseriez. Ah, homme de sang, oui. Sanguinaire, non, mais homme de sang. Et puis, il y a pire. Il y a le meurtre d'Uri. Et ça peut commencer à expliquer des choses dans le comportement de David. Ensuite, il y a homme sans morale. Alors, j'ai regardé, fils de Bélial, vaurien, dégénéré, diabolique, qui a une puissance de destruction, qui transgresse les règles de la société humaine. Oh ben non, là non. Là, franchement, il a attendu le temps de Dieu pour revenir dans sa tribu, il a refusé de faire quoi que ce soit contre Saül, il a pardonné à Abner, quand même, qui avait tué son neveu. Il a écouté les conseils d'Abigaël quand elle l'a raisonné, il a félicité les habitants d'Iabèche pour leur loyauté envers Saül, enfin bon, quand même. Mais, il a manqué de morale avec Bathsheba et Uri. Et ça, lui, il le sait, il y pense. Le Seigneur fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül à la place de qui tu es devenu roi. Alors là, c'est le gros big mensonge. Fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül alors qu'il a pris soin de Méphibosheth, alors qu'il a tenu parole à Jonathan, alors qu'il a fait revenir les ossements, il a félicité Iabèche de s'occuper des ossements de Saül avec respect. Là, c'était un énorme mensonge. Donc vous voyez, il y a un mélange de choses, il y a des choses qui sont déformées, et dans les malédictions, dans les accusations, c'est toujours un peu comme ça. On est humain, il y a du vrai, il y a de l'exagéré, et il y a du faux. Et donc, ça, c'est dur quand même. Ça, c'est une accusation qui m'a énervée quand j'étais jeune, parce que quand même, faire retomber sur toi le sang, et c'est le Seigneur, on parle là au nom du Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a fait, on affirme que le Seigneur fait retomber le sang. Oh là là, c'est grave. Mais il ne bouge pas. Alors bon, qu'il ne bouge pas aux deux autres, je vous ai dit, ça peut se comprendre, mais qu'il ne bouge pas à celle-là, ouh, il a dû serrer les dents, hein, parce que vraiment, c'est terrible. Et puis, il continue, le Seigneur a confié la royauté à Absalom, ton fils. Ah bah oui, tiens. Le Seigneur, par quel bout? On sait comment Absalom a usurpé le pouvoir sur la base d'un assassinat, un incendie, une réconciliation sans repentance, des intrigues, un prétexte religieux, un abus de confiance pour les 200 hommes, des annonces mensongères. Ça fait beaucoup, hein? Et ça, c'est le Seigneur. Non, ça me révoltait quand j'étais jeune. Ce texte m'a gênée. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et il continue. Tu l'as mérité, ton malheur. Ah! Je pense que ça le fait réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait ce que Dieu avait dit par le moyen de Nathan. Vous vous rappelez? L'épée ne s'écartera jamais de ta maison, de ta famille. Je suscite un malheur contre toi au sein de ta famille. Aïe! C'est pour ça qu'il va répondre, ça y est, j'ai pigé, d'ailleurs c'est Monsieur Nicole qui m'a mis sur la piste, hein, c'est pas moi. Mais il ne me l'a pas dit ouvertement, mais il m'a mis sur la piste, il m'a fait réfléchir. S'il maudit, c'est que le Seigneur lui a dit maudit David. Eh oui, c'est pour ça qu'il dit ça. Il se rappelle des paroles de Nathan que je viens de vous lire. Mon propre fils en veut à ma vie, à plus forte raison ce benjaminite. Là, il y a de la dépression. Donc il y a la prophétie de Nathan qui se réalise. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne se révolte pas. Il a résisté à toutes sortes d'oppositions dans sa vie, depuis sa jeunesse, hein, depuis son adolescence. Mais il est complètement brisé par la trahison de son fils. Mais je pense qu'il est d'autant plus brisé qu'il y avait cette parole de Nathan à la suite de son péché. Quelqu'un a écrit, c'est pas de moi, mais je trouve ça très beau, « C'est par cette humilité profonde que malgré la gravité de ses fautes, David a pu être encore l'homme selon le cœur de Dieu. » Parce qu'il a senti qu'il y avait quelques petites choses de vraies et que ça répondait à la prophétie. Donc il n'a pas cherché à se défendre sur les gros mensonges. Il a accepté la méchanceté de cet homme, il a baissé la tête. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte? Je termine, je suis désolée, j'ai dépassé mon temps. Eh bien, je me suis souvent posé la question, est-ce que ça veut dire que il faut toujours se laisser faire, etc. Non, vous voyez bien, ça répondait à un cadre particulier. Et ce qu'on voit aussi, on voit deux choses dans ce texte. En se focalisant sur des choses négatives, on peut transformer un homme en monstre. Parce que vous voyez, il n'avait pas totalement tort, le Shimei. Bon, plus tard, il va se repentir. Bon, c'est parce que David est revenu à la royauté. Donc, est-ce que c'était sincère? J'en sais rien. Mais enfin, il revient à être ami avec lui. Mais, vous voyez, on peut transformer un homme en monstre et ignorer tout le bien qu'il a fait. Et aussi, tordre les fêtes. Il y a des fêtes qui sont vraies, mais ils sont tordues. Et ça, Shimei, il est super bon là-dedans. Heureusement, je pense que si c'est une repentance véritable, plus tard, tant mieux. Mais alors, le plus important à retenir, parce que ça, c'est plutôt glauque, le plus important à retenir, c'est que nous avons Jésus, qui lui aussi a monté cette montagne des Oliviers. Et c'est ça qui m'a consolée en finissant ce texte. Lui, il a pris nos fautes sur la croix. Pas pour nous les reprocher à la première occasion. Vous vous souvenez, Luther, avec son encrier, jeté. Et parce qu'il nous a purifiés de tout péché. Donc, ne soyons pas... David était sous la loi, malgré le fait qu'il avait compris une grande partie de la grâce. Avec Jésus, c'est pas comme ça. Jésus ne va pas revenir avec nos péchés. Ah, je t'avais dit qu'en faisant cette bêtise, il arrivait ça et ça dans ta vie. Non, non, il pardonne. Et soyons fermes dans ce que nous croyons, dans notre foi. On n'a pas accepté les malédictions de l'ennemi. On n'a pas accepté ces malédictions. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, évidemment, il obtient miséricorde. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui remettre à la figure tout le temps. Uri et Bathsheba. On ne va pas lui remettre à la figure ses erreurs. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Dans la mesure où il s'était repenti, David, il aurait vécu au temps de Jésus. Je pense que, c'était 1000 ans plus tard. Il aurait vécu au temps de Jésus, je pense que ce ne serait pas passé comme ça. Parce qu'il aurait su que tout est pardonné, tout est terminé. Et que, qu'est-ce qu'il a pris sur la croix? Il a pris notre condamnation. L'acte qui nous condamnait a été déchiré. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit de faire comme David, mais de, comme dit, avouer nos transgressions, les délaisser, et on obtient miséricorde. Quel privilège on a! Vous voyez, le martyr que David a vécu, c'était sous la loi. Maintenant, on est sous la grâce. L'acte qui nous condamnait a été déchiré. Et ça, c'est un sujet de joie, et j'étais contente des chants qui ont été pris ce matin. Attaché à la croix pour moi. David n'avait pas encore ce privilège. C'était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de celui qui allait faire ça. Mais attaché à la croix pour moi. C'est-à-dire que l'ennemi n'a plus le droit de faire ce que Shimei a fait. Il n'a plus le droit. Bon, les mensonges, d'accord, mais pour le point de vérité, Uri, Bathsheba, ou Bethsabé, il y avait un point de vérité. Et il a encaissé, parce qu'il savait que si c'est Dieu qui me maudit, je n'ai rien à dire. Mais là, on est sous la bénédiction de Jésus. Il a pris sur le bois, il a pris nos péchés. C'est fini! Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Tout est accompli. Donc ne laissons pas l'ennemi nous attaquer. Ne laissons pas l'ennemi, même si parfois on dit « oui, c'est vrai, j'avais fait ça ». Ok, on demande pardon, on délaisse. Mais on vit, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation. Et je voudrais vous laisser sur cette note, parce que c'est tellement important. Tellement important. Seigneur, merci parce que tu as été attaché à la croix pour nous. Merci parce que toi aussi, tu as monté cette montagne des Oliviers dans la détresse, sous des accusateurs, sous les pharisiens, sous les moqueries, etc. Et tu as monté comme David cette montagne. Mais toi, tu as pris sur toi nos péchés, tu as pris sur toi notre condamnation. Et Seigneur, on te remercie, on ne sera jamais assez reconnaissant. On parle trop souvent du sacrifice, de ton sacrifice comme un fait, comme ça. Mais Seigneur, c'est tellement beau qu'on n'a plus à marcher comme David, la tête basse, en attendant que tu lui remontres ta grâce, comme ça a été le cas après. Amen.